RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Le Super Football Show.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Ravi d'être avec vous, soyez les bienvenus dans l'After. On est ensemble pendant 2 heures avec ce soir parmi nous Ali Benarbia. Bonsoir Ali.
Bonsoir.
Attends, je l'ai pas encore fait. Avec ce soir parmi nous, oh là, qu'est-ce qu'il y a, beau gosse, petit clin d'œil, veste bleu marine sur chemise en jean.
Bleu jean.
Salut les amis.
Ça va, François Malardeau.
Oh bleu marine.
Salut.
Bleu jean.
Salut Ali. Salut.
Le clown. Et François.
Aujourd'hui, on a eu la suite de la 29e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a battu Metz 5-0. Un partout entre Dijon et Amiens ce soir. Nantes a battu 3-1-0. Pas de but entre Bordeaux et Angers. Un partout entre Lille et Montpellier. Envahissement de terrain du stade Pierre Mauroy à l'issue de la rencontre. On y reviendra dans quelques instants. Un partout également entre Rennes et Saint-Etienne. Ça bouge pas beaucoup au classement. Faut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts non plus. Le PSG est toujours bon leader devant l'AS Monaco et devant Marseille qui est 3e. Marseille qui a 5 points d'avance sur l'OL. Ces deux équipes qui joueront demain. À la 5e place, c'est là où c'est serré. On a Nantes. Nantes qui compte 43 points, alors que Lyon en a 51. À 1 point de Nantes, on a Rennes. À 2 points de Nantes, on a Montpellier. À 4 points de Nantes, on a Nice qui est 8e. Bordeaux est 9e avec 37 points, c'est autant que Dijon. Juste derrière, on a Saint-Etienne avec 36 points. Et puis je vous fais également les équipes qui sont en position délicate. Metz est dernier avec 20 points. Avant-dernier, et donc pour l'instant relégable, Lille avec 28 points. Lille qui est à égalité de points avec 3. Qui est donc barragiste. À la 17e place, on a Toulouse qui jouera demain face à Marseille qui a un point d'avance sur 3 et sur Lille. 16e, on a Amiens avec 2 points d'avance sur la position de barragiste et sur Lille. Et on a avec 31 points Angers et Strasbourg. L'écart qui se creuse un petit peu également. Angers qui a 32 points, pardon, avec un point d'avance sur Strasbourg. L'écart se creuse un peu pour Caen qui a 35 points. Mais c'est vrai que ça reste serré également en bas, hein, pour l'instant.
Oh, ça va être serré, je crois, jusqu'au bout. En dehors que progressivement, nos amis messins, ils vont disparaître progressivement. Ça. Et les Lillois aussi.
Petit résultat de Ligue 2 également, le PFC a battu Sochaux 2-0, 29e journée de Ligue 2, le PFC qui est à 2 points de la 3e place, à 2 points de l'AC Ajaccio. Et puis on ira tout à l'heure en Angleterre, United a battu Liverpool dans le derby d'Angleterre notamment. Il y a également du rugby ce soir, 20e journée de Top 14, Paul Lafitte suit pour nous le match entre Pau et La Rochelle. Salut Paul.
Salut Nico, bonsoir à tous. Et on entre dans le Money Time, un petit peu plus de 17 minutes encore à jouer. La Rochelle était menée 15 à 6 à la mi-temps. Les Béarnais avaient marqué les deux seuls essais donc lors du premier acte. Mais grâce à Alexis Ballès et grâce à une mêlée qui est en train de mettre la main sur cette rencontre, eh bien les Rochelais reviennent 15 à 9, 15 à 12. Et la nouvelle mêlée fermée, une nouvelle démonstration de force des hommes de Patrice Collazo. Et donc c'est une pénale touche que va aller chercher Alexis Ballès dans le camp, renvoyer le jeu dans le camp de la section palo. On va donc rentrer dans ce Money Time. Rien n'est fait. 3 petits points de retard pour les Rochelais. On rappelle qu'au classement, Nico, la section paloise est 4e. Les Rochelais 7e avec seulement un petit point d'écart entre les deux. Deux équipes en route pour le top 6 en fin de saison. Donc, méga Money Time sur la pelouse du hameau. 15 pour les Béarnais, 12 pour la Rochelle.
Merci Paul. Il y a également Brive qui joue face à Clermont. Julien Tellier. Salut Julien.
Salut Nico. Salut l'After. Bienvenue à Brive où bah, depuis 58 minutes que l'on joue, il pleut. Il tombe une pluie battante. La pelouse se résume à quelques flaques et un peu d'herbe au milieu, voilà, c'est une catastrophe et le score évidemment s'en ressent, la qualité du match aussi. Derby du Massif Central tristouné avec très peu de jeux et pour l'instant c'est Brive qui mène face à Clermont.
Clermont c'est pire que la crise là-haut.
Ah oui, c'est pas génial. Ouais, ouais. Ils ont gagné la semaine dernière contre La Rochelle, ça leur a donné un peu d'air, mais ils sont pas sauvés. Et là pour l'instant ils sont en train d'être dominés par Brive qui était avant-dernier du classement au coup d'envoi de cette rencontre. Donc la fin de saison sera délicate pour les Clermontois qui sont pas encore maintenus en top 14 pour une équipe qui était champion de France en juin dernier. Ça fait bizarre. Ah ouais. 59e et Clermont est donc mené sur la pelouse de Brive. 9 à 3.
Merci beaucoup Julien. Je vous rappelle que dans le tournoi destination, la France a battu l'Angleterre. Et ouais, le crunch a été remporté par les Bleus. 22 à 16, victoire de la France. Nous maintenant, on va passer au plus important. Et le plus important, c'est les 3 points.
Mais l'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Prince Ali Benarbia, quels sont tes 3 points ce soir?
Premier, Nkunku, un petit jeune qui était tout maigrichon et qui là a eu du temps de jeu de temps en temps et aujourd'hui.
T'as claqué un doublé hein, contre Metz. Hein.
Même si c'est les Messins, il a fait un très bon match, il a été très bon, très costaud, maturité, il a bien fini pour un milieu de terrain et très 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 bonne prestation.
C'est marrant, par rapport à ce que tu dis sur Nkunku, il y a une analogie avec la saison passée.
et le scénario parisien sur la scène européenne. Si ma mémoire me fait pas défaut, quand ils sont éliminés par le Barça, ils jouent à Lorient dans la foulée, ils titularisent Nkunku et c'est lui qui marque le but de la victoire. Mmh. Donc faut croire que ce gamin est prédestiné à se mettre en avant une fois que son
et
club
là,
dégage de la Coupe d'Europe.
Il a pris un muscle et là c'est encore un bon petit jeu de formation qui commence à jouer, c'est une bonne chose.
Ton deuxième point, Ali, Bordeaux.
Ouais, Bordeaux inoffensif dans le sens où ils ont beau essayer, même sortir Malcolm, ils s'approchaient même pas du des cages angevines, ils n'arrivaient pas du tout à marquer un but et à domicile. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de retrouver encore un cycle où les Bordelais commencent encore à pu trouver la solution? La preuve en est, c'est que d'un coup, il a refait jouer à la fois Bayes, il a refait jouer Placide, ce qu'il n'avait pas fait quand il a eu de résultats. Donc, c'est encore des Bordelais amorphes qui ont du mal à revenir.
Il sort Malcolm aussi.
Ouais, il sort Malcolm et ils ont du mal à revenir. Pas évident.
Et ton dernier point concerne le LOSC. On sera avec Jean Baumel dans quelques secondes d'ailleurs.
On savait que ça allait pas, mais là encore plus au niveau des résultats, c'est que j'ai vu notre ami Lopez et Ingla regarder ébahis les supporters rentrer sur le terrain. Mais quand vous avez foutu complètement le club dans l'état où il est et ce qu'il est devenu, fallait pas s'attendre à autre chose, même si je suis contre l'entrée des supporters sur le terrain. Évidemment. Et je me demande où est la sécurité, où sont les stadiers. Qu'est-ce qui se passe dans ce club? En plus qu'il n'y a plus rien dans l'organigramme, même la sécurité n'y est pas du tout. Ce club est devenu une catastrophe.
On y reviendra tout à l'heure avec Philippe Poclair. On sera en Angleterre aussi. À West Ham, il y a une scène identique également cet après-midi, ce qui est très rare en première ligue, mais envahissement de terrain avec les joueurs qui s'en mêlent, etc. On y reviendra avec Philippe tout à l'heure. Tes trois points, François.
Alors, mes trois points, Stéphane Ruffier en premier, le gardien stéphanois qui, depuis qu'il est revenu de sa suspension, plutôt était bon, voire très bon, et ce soir, il a été vraiment extraordinaire. Ouais. Il encaisse un but, certes, il peut rien faire sur la tête de Sarr, mais il a fait des parades, il était vraiment en très grande forme, forme internationale même si on sait qu'il a fait une croix sur l'équipe de France. Deuxième point, c'est Bordeaux. Alors, c'est le foot, parfois, c'est un peu comme la cuisine. Il y a la recette et les ingrédients. La recette, c'est l'entraîneur, évidemment. Et puis, on a cru, comme ça, quand il est arrivé, Poyet, qu'avec une nouvelle recette, ça pouvait marcher. Et maintenant, Bordeaux marque le pas. Je trouve que finalement, c'est les ingrédients, comme c'est souvent le cas, finalement, qui ne vont pas. Cette équipe bordelaise, elle est à sa place. C'est les joueurs moyens, peut-être un peu embourgeoisés pour certains. Donc, les ingrédients bordelais, avec quelle que soit la recette, ils restent les mêmes. Et dernier point, le Paris Saint-Germain. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Nico? Premier contre le 20e. Bon, voilà, c'est 5-0. Mais t'as un sentiment presque de tristesse, l'impression de voir une Ferrari tourner sur un circuit fermé. Et ça va être ça jusqu'à la fin de la saison. Il y a une date importante, la finale de la Coupe de la Ligue, et puis une finale de Coupe de France, sans doute, sans faire des honneurs au stade Malherbe de Caen, mais avec un PSG qui affrontera une équipe nationale. C'est pas le projet Qatari, ils vont devoir s'en satisfaire pourtant.
Je vous donne mes trois points également. Alors moi aussi, il y a Lille, parce que Lille ne va pas mieux. Alors moi, j'avais préparé mes trois points avant même la fin du match. Il y avait déjà l'aspect sportif. On rappelle que Lille est avant-dernier ce soir, à égalité avec Troyes qui est barragiste. Il y avait l'aspect sportif et effectivement ce qui s'est passé à la fin. C'est dire le ras-le-bol. Vous êtes nombreux, supporters du LOSC à nous appeler très souvent au 32-16 dans l'after et à nous faire part de votre mécontentement. Il y a toujours eu quand même un certain apaisement quand même de la part des supporters pour qu'ils en arrivent à ce point-là. Même si comme toi, c'est pas du tout cautionnable, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. C'est vrai que ça veut dire qu'il y a quand même un sacré malaise. Cinquième place. Alors, il y a eu ce but de Nantes en toute fin de match de Salah face à Troyes. On a l'impression que personne n'en veut, finalement, la cinquième place. C'est hyper serré encore. Une fois, il y a le match nul entre Saint-Étienne et Rennes. Rennes qui a arraché le nul en fin de match également. Il y a Montpellier qui a fait match nul face à Lille également aussi. Ça reste toujours aussi serré pour la cinquième place. Et puis, PSG gueule de bois. Parce que c'est vrai qu'on attendait de voir, ou d'ailleurs, on n'attendait pas de voir ce qu'allait faire le PSG après cette élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions. Ouais, après, c'était, comme tu dis, c'est Metz en face, tu doutes que ça va faire tourner. Il y a beaucoup de choses.
Et attention, les Messins, Nico, tu vas peut-être le dire, mais les Messins auraient pu faire
première mi-temps.
Pas un vol, mais auraient pu mieux se démerder.
Alors, gueule de bois pour le Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai qu'il y a eu ces sifflets alors à l'égard de Unai Emery, à l'égard également d'Angel Di Maria. On écoutera Thomas Meunier qui prend sa défense d'ailleurs, on l'écoutera tout à l'heure. Alors, et puis il y a aussi tout ce qu'il y a autour, tout ce que ça génère, c'est-à-dire toutes ces infos contre infos, le préfet qui s'en mêle, il y a beaucoup de choses qui sortent également dans la presse. Et quand un club n'atteint pas certains de ses objectifs, il y a aussi parfois des choses qui viennent de l'intérieur. Il y a beaucoup d'informations qui sortent. Parfois, les gens pensent, vous êtes nombreux à croire que nous on invente. Il faut savoir qu'il y a des informations qui nous viennent du club. Hein. Et elles nous viennent d'ailleurs,
évidemment,
de là-bas. Donc
évidemment.
Voilà. Messieurs, on va revenir. On va passer au match entre Lille et Montpellier. Il y a eu un partout. Ça c'est pour le foot. Pépé avait marqué le premier but pour le LOSC. Égalisation de Roussillon qui fait beaucoup de bien depuis son retour. Un partout. Mais à l'issue du match, il y a eu un envahissement de terrain. Jean Baumel a commenté ce match pour nous. On l'a suivi grâce à lui, grâce à sa douce voix. J'ai Gibo qui est avec nous. Gibo, ça va ?
Oui, ça va, ça va. En tout cas, ici, ça s'est un peu calmé. Bonsoir à tous. C'est vrai que c'est une fin de match très, très, très particulière qu'on a vécu ici au stade Pierre-Mauroy. Tout simplement, je rappelle la scène. Coup de sifflet final, un partout et envahissement de terrain des ultra lillois, donc le COP hein, avec majoritairement les DVE, les Dogs Virages, donc qui ont envahi le terrain. Il y a eu des échanges de coups avec certains joueurs. Alors moi j'ai cru voir Thiago Maia bien bougé par les supporters, ainsi que Nicolas Pepe et Thiago Mendes. En tout cas, faudra vérifier bien sûr vraiment les coups qui ont été donnés. Amadou qui a discuté avec des joueurs, les stadiers forcément qui ont protégé les joueurs pour qu'ils rentrent le plus vite possible au vestiaire, alors que d'un côté il y avait les Montpellierains qui étaient tranquilles dans le coin pour saluer eux leurs supporters. Ils ont pu rentrer tranquillement. Fin de match aussi où qui a été marqué par l'expulsion de Christophe Galtier, qui à un moment s'est retrouvé sur le terrain à donner des consignes. Je pense qu'il se rendait pas compte qu'il avait pénétré depuis 10-15 secondes à l'intérieur du terrain alors que le jeu était en cours. C'était aussi une scène assez hallucinante. Et puis les supporters ont tout simplement scandé plusieurs slogans. Un que je peux vous dire, si on descend, on vous descend. Ouais. Et puis des slogans envers Gérard Lopez. Je vous dirai pas le terme puisque c'est pas très beau. Mais en tout cas, ils en veulent énormément au président lillois vu la situation du club. Alors, ce qui est un petit peu surprenant, c'est qu'en début de semaine, Gérard Lopez avait rencontré les supporters au domaine de Luchin. Et en fait, l'objectif c'était d'unir tout le monde. Et les supporters avaient même fait un communiqué, les sections principales. C'était d'ailleurs avant-hier, en disant voilà, on réglera nos comptes en fin de saison par rapport à l'extra-sportif, ce qui s'est passé avec Bielsa, la DNCG, la rétrogradation en deuxième division à titre conservatoire, mais on va vous soutenir jusqu'au bout. Là, on n'a pas trop compris pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est vrai que ça fait un partout, c'est pas un résultat très intéressant, mais d'un autre côté, Troyes a perdu, donc voilà, la lutte est toujours possible. C'est vrai que la fin de saison s'annonce très compliquée. La semaine prochaine, il y a un déplacement à Monaco. Ils ont été très patients, les supporters, mais là je pense que la soupape elle a sauté d'un seul coup et ils ont été, je pense, pour moi trop loin dans cette fin de match en envahissant le terrain et en s'en prenant aux joueurs.
Mais de l'avis de tous, Jean, t'en es bien tous conscients. Même si c'est encore à chaud, qu'on a évité un drame.
Bah, surtout s'il y a eu des échanges de coups.
Moi, je vois les images en direct tout à l'heure. Tu vois les premiers gars se ruer sur la pelouse en mettant leur capuche.
Oui, c'est sûr.
Pour qu'on ne les reconnaisse pas. Ils n'ont pas en tête d'aller demander l'heure à l'arbitre, hein. C'est vraiment pour aller se faire du joueur. Et quand tu vois, en plus, on était avec Ali, on voit les Lillois, qui bougent pas. Les joueurs, hein.
Incompréhensible.
Ils les attendent, genre, venez voir. Non, mais. Tu prends tes jambes à ton cou, exactement. Tu vois une ruée de mecs qui te déboule sur le rable, tu prends tes jambes à ton cou et tu files au vestiaire.
Non,
il reste. Mais on a évité un drame, parce qu'on a des ultras lillois qui sont pas des ultras réputés parmi les plus violents de France, mais on évite quand même un drame.
Mais ce qui est intéressant,
comme le dit Jean, ils en ont ras-le-bol, et quand tu pètes les plombs et qu'il y a une telle soupape émotionnelle,
tu te retiens pas.
Qui s'ouvre,
et un groupe.
Ce
qui est intéressant dans ce que dit Gibo, c'est que finalement, Gibo, si je te suis, il y avait plutôt eu un message d'apaisement.
Oui, Gérard Lopez qui a rencontré les principales sections de supporters lundi au domaine de Luchin. Un communiqué des supporters avant-hier qui disait voilà, on réglera bien nos comptes en fin de saison sur tout ce qui est extra-sportif pour l'image du club, parce que c'est vrai que c'est une saison catastrophique, mais l'objectif c'est de sauver le club au niveau sportif, et on va vous aider, on va vous soutenir. Bon, est-ce que c'est le résultat qui a provoqué ça? Peu importe, c'est vrai qu'ils n'avaient pas à envahir le terrain comme ça. Encore s'ils avaient envahi le terrain de manière le match était terminé pour scander, râler, mais pas s'en prendre aux joueurs. Bon, c'est pas top, mais ça aurait été mieux. Là, c'est vrai qu'il y a eu quand même des joueurs qui ont été pris à partie. Là, c'est autre chose. Et ce qui est pire, le pire, c'est que ils vont peut-être fragiliser des joueurs pour la fin de saison. Ils vont peut-être avoir peur d'aller sur le terrain, d'aller au stade Pierre-Mauroy lors du prochain match. Ils sont en train de se tirer une balle dans le pied.
Mais complètement, parce que là, ils viennent de porter préjudice à leur club. C'est presque un scénario à la Bastiaise. Il va y avoir à minima une suspension avec un sursis pour le stade, voire un huis clos, ou bien ils vont leur demander d'aller jouer ailleurs. Donc quand t'es relégable, ils sont 19e, hein, le Lens, c'est ça.
tu peux pas en plus
mais sur égalité de points avec
bénéficier
avec
ton entre guillemets ton stade là où t'es censé grappiller le maximum de points pire.
après Dijon même, le fait, par exemple. Même si voilà on est forcément
Dijon, qui est pas relégable,
on cautionne pas les envahissements de terrain encore moins le fait de s'en prendre aux joueurs tu sais ça peut enfin après c'est très personnel mais ça peut avoir peut-être va savoir l'effet inverse sur les joueurs aussi ça peut peut-être laisser aussi les mecs
non ça je te le dis ça se coupe personne déjà ça se coupe personne ça les enterre
déjà dans la situation où sont Lille je veux dire ça va pas les aider.
Non.
Mais je crois que ce qui a fait que les supporters se sont transformés, et je pense que Gibo a raison, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'ils gagnent 1-0. Ils ont dit on va faire un petit peu nos discussions avec le président et les dirigeants en fin de saison, mais on essaie de se maintenir. Donc pendant le match, c'est-à-dire tu gagnes 1-0. Tu dis ça va être le stand-by pour les prochains résultats pour qu'on sorte de la zone. Mais en fait, le fait de se faire égaliser à la fin et de ne pas tenir encore une fois ce résultat-là, je pense qu'à la fin, ça y est, ils ont pété les plombs.
Ouais, et même dans le jeu, Ali, c'était catastrophique.
Oui, bah, c'est comme d'habitude.
Mais c'était pas possible.
C'est comme d'habitude.
Oh, incroyable, c'est même un miracle de faire un match nul ce soir.
Non, mais déjà, quand t'es pas bon, on sait qu'on connaît Montpellier, et que tu tiens le 1-0... Là, tu te mets un petit peu ce qu'il faut par terre. Tu ne joues pas spécialement bien, mais tu essaies de gratter ce 1-0 jusqu'à la...
On laisse filer Gibo, tu vas aller assister à la conférence de presse des deux coachs notamment. Merci Jean Baumel en tout cas.
Merci
pour toutes ces indications.
Bonsoir à tous.
Merci, bonne soirée Gibo. On rappelle le calendrier de Lille. Le prochain match, c'est déplacement à Monaco. Ils reçoivent Amiens. Ça va être un match très important également. Et ensuite, ils vont aller à Bordeaux.
Ils demandent où est-ce qu'ils vont les recevoir, Amiens. Mais non, mais par rapport à ce que tu disais, Nicolas, tu peux pas espérer une réaction des joueurs quand ils voient débarquer. Parce que là, c'est au stade. Après, il y a le centre d'entraînement. Il va y avoir des CRS pour barricader le centre.
Et il faut bien le dire. Ce n'est pas les anciens de Lille, ce sont des nouveaux là.
On va accueillir Vincent qui est supporter du LOSC et qui d'ailleurs était sur la pelouse pour protester. Salut Vincent.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Vincent. Alors t'étais donc au stade et t'as fait partie donc de ces supporters qui ont envahi la pelouse à la fin du match alors.
Alors on va remettre les choses dans son contexte quand même. Sachez que au niveau supporters il y a une mobilisation dès 19h. Il y a eu des cortèges qui ont été organisés. Il y a eu des encouragements tout le long du match. Donc là l'Union Sacrée telle que vous l'avez dit, le supporter les joueurs ça a été fait.
Ouais.
Au bout d'un moment, il y a quand même à avoir un respect mutuel et un engagement minimum de joueurs pourri gâtés et surpayés qui sont méprisants et méprisables vis-à-vis des supporters qui ont aucune conscience ni aucune motivation affichée pour sauver un club, une ville ou n'importe quoi. En tout cas, moi, c'est vous parlez de drame. Le drame, là, moi, je suis pas d'accord en parlant de drame parce que
non, ça aurait pu être un drame. Moi, Vincent,
j'étais assez loin de ça. Moi, j'ai pas vu de coups, j'ai pas vu de choses comme ça. En tout cas, moi, ce que je peux voir. C'est le non-respect de certains joueurs vis-à-vis de supporters. Il y a déjà eu des mobilisations comme ça.
Est-ce que ça justifie une question simple. Ouais. Vincent, est-ce que ça justifie que vous envahissiez votre pelouse?
Alors là, vous disiez, les joueurs, ils vont avoir peur de rentrer sur le terrain. Ils vont avoir... ça ne peut pas être pire que ce qu'ils font.
Ma question, est-ce que ça justifie que vous envahissiez votre pelouse?
À partir d'un moment, il faut aussi montrer qu'on ne peut pas se faire, comment dire ça en termes assez clairs, se faire chier dessus par des joueurs qui n'ont absolument rien à faire de supporters ou d'une ville ou quoi que ce soit. Et alors, est-ce que c'est la bonne, méthode? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit,
vous faites le procès des joueurs en envahissant la pelouse de votre stade avec une attitude. Quand j'ai dit heureusement, il n'y a pas eu de drame.
Ouais, t'as parlé de drame évité, pas de drame
évité. Heureusement. Mmh. Mais vous pouvez pas, vous, Vincent, vous porter caution pour tous les gars qui sont rentrés sur la pelouse. Premièrement, deuxièmement, en quoi je comprends, moi, l'excès de colère, de frustration, d'aigreur par rapport à ce qui a été quand même annoncé en début de saison et la place dans laquelle vous vous situez. On peut comprendre ça. Mais c'est pas parce qu'on le comprend qu'on accepte l'attitude que, alors je dis vous, parce que vous dites que vous étiez sur la pelouse, donc vous l'avez cautionné, cette action-là. On peut pas accepter ça. Votre stade va être suspendu, il va y avoir un huis clos, et vos joueurs, ça les tétanise, non, forcément.
Mais François, ils sont plus dans la...
Non, mais Vincent... Qu'ils soient tétanisés, les joueurs, ça ne peut pas être pire que ce qu'ils font actuellement, et le manque de volonté...
Non, c'est pas ça,
qu'ils ne sont même plus dans la réflexion. Ils sont encore dans la réflexion au début du match.
Ils sont dans l'émotion, ils sont même pas dans
Exactement. Et là, c'est l'agacement, la haine qui prend le dessus. Et je pense que tous ces jours et tout ce qui s'est passé par le club, on n'a jamais vu les supporters lillois s'exprimer négativement. Et là, je pense, moi, je pense ce qui a tourné, c'est que ce résultat, même en jouant mal et en restant à 1-0, ils n'envahissent pas sur
les terrains. C'est vraiment ce match nul. L'exemple type du scénario perdant ce soir.
Mais Vincent, juste une question.
Tu le disais
il y a quelques instants, vous avez soutenu finalement l'équipe pendant tout le match. Finalement, vous avez basculé quasiment d'un excès à l'autre. Mais est-ce que c'était prémédité, cet envahissement de la pelouse, ou non. C'est venu de façon spontanée et finalement très émotionnelle, finalement?
Il y a des choses qui étaient plus ou moins prévues après les communications d'agissement de supporters. Ça se communique pas comme ça, mais en tout cas, ça a été aussi défini en interne et suite à la rencontre avec Gérard Lopez. En même temps, Gérard Lopez est un grand orateur qui a totalement merdé son projet dès le départ. Et là, il s'en rend peut-être compte, mais il est bien trop tard. Donc maintenant, faire quelque chose pour Lopez, ça changera rien. Lui, il peut rien changer. Là, aujourd'hui, en étant interdit de recrutement, passer la période de recrutement, il va râler. Qu'est-ce que ça va faire? Maintenant, on doit soutenir les joueurs et aussi leur faire prendre conscience de la gravité de la situation.
Eh ben écoute, le message est passé, Vincent. Relax, les gars, on se détend. Voilà, on fait en sorte que ça se passe bien dans les prochaines semaines.
Ça se passera bien. Après, maintenant, ce sera soutenu. À partir du moment où le responsable des DVE a dit de sortir du terrain, on est sorti du terrain sans problème, sans incident. C'est un acte, je pense, notoire dans une saison, et j'espère que ça portera ses conséquences positives.
Non, certainement pas. Et Vincent, je vous trouve très posé, réfléchi dans votre discours. On se connaît pas, mais ce que vous espérez sur des conséquences positives, là, je peux vous le garantir, vous pouvez faire une croix dessus. Notamment parce qu'il va y avoir des sanctions contre le club.
Déjà, suite à cette match ne se déroulera pas dans le stade.
Je vous le demandais à vous. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour concerner des joueurs pour éclater sur pays?
Mais Vincent, attends,
déjà, il y a un truc.
Vous n'êtes pas salarié du club. Vous êtes supporter, mais c'est à l'encadrement. Qu'est-ce qu'il faut faire au PSG quand ça va mal? Qu'est-ce qu'il faut faire à Lille?
Vincent, moi je vais te répondre. Je vais te faire une proposition. Tu l'as dit toi-même, vous avez soutenu l'équipe au moment où ça allait pas, vous l'avez fait dans ce match-là, alors que finalement vous l'avez pas perdu, alors même si c'est pas encore ça, bah pourquoi vous faites pas la grève, tout simplement des tribunes?
Une grève, c'est passif. Au bout d'un moment, des grèves, on l'a déjà fait.
Faites des banderoles, je sais pas.
Des banderoles, ça a été fait aussi. Et après, il faut des actes notoires. Et là,
non. Ça c'est la loi du talion. Ça c'est la loi du plus fort. Et c'est au club de faire. Et c'est à Gérard Lopez. De faire le ménage, de redresser la barre avec l'entraîneur qui est le joueur. Mais c'est pas aux supporters de jouer. C'est pas le levier pour ça.
Vincent, pour finir,
Faire Gérard Lopez. Il connaît absolument rien au foot. Il en a strictement rien à faire. Il est venu faire un profit, ou arranger sa notoriété, ou faire un.
Effectivement, vous êtes sans doute mal embarqué, ouais. Vincent. Ça, je vous l'accorde.
Moi, j'ai une solution pour toi, Vincent. Supporter le Racing Club de Lens. C'est pas mal, ça, non?
Tu m'avais déjà dit la fois dernière, mais je préfère mourir que ça.
Vous êtes des tarés. Bref, Vincent, bonne soirée à toi.
Voilà, bonne soirée,
messieurs.
Merci. Voilà, et message d'apaisement et de paix. Peace, les gars. Love. Bonne soirée, Vincent. À bientôt. On va accueillir Eric, autre supporter de Lille, également, qui nous a appelé au 32-16. Salut, Eric.
Aussi. Lui, il est resté dans les tribunes.
Bonsoir à tous.
Allez,
bonsoir. Pas sur la pelouse.
Non, il est dans ses toilettes, visiblement, vu comme ça résonne.
J'ai pas été au stade parce que j'étais malade. Merci de dévoiler mon
intimité. Et t'avais une gastro, visiblement, alors, si j'ai bien compris.
Ouais.
Bon diagnostic, je le savais.
Restez avec nous.
L'auditeur qui a la gastro, c'est pas contagieux.
Qu'est-ce que je fais? Je continue. Je me sens trop mal. Non, c'est vrai. Moi, ce que je voulais dire, c'est, moi, je pense parfaitement le contraire de ce que pense Vincent. Je pense pas que Gérard Lopez est un mec fantastique. Au contraire, je le déteste. Je n'ai absolument aucune affinité pour les joueurs de cette équipe. N'oublions pas qu'on a vu des supporters envahir la pelouse, mais on n'a pas vu que ça. On a vu des joueurs qui étaient prêts à en découdre. On a vu Pépé qui a fait signe, vas-y, viens, et tout ça, parce que la fracture est complète, et voilà. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé génial dans la communication des supporters cette semaine, c'est que les supporters voulaient se mettre au-dessus du niveau de l'équipe, en disant, vous êtes des peu engagés, des blaireaux, on peut le dire. Nous, on est au-dessus de vous. Nous, on y est irréprochables et on soutiendra le club jusqu'au bout et tout ça. En fin de saison, bien sûr qu'on demandera à ce que tout dégage et tout ça, mais au moins, descendons avec, on dira toujours, les supporters de Lille sont descendus avec dignité. C'est la musique pendant le naufrage du Titanic. C'est pareil. Là, maintenant, on est comme tous ces clubs qui vont mal. Alors, on parlait du RC Lens, on a dit supporter le RC Lens. Quand Lens redégringole pour la deuxième fois,
On a tous en tête, nous les supporters lillois, ces images de supporters qui vont fracasser des CRS ou des stadiers. Les CRS et les stadiers qui en ont mangé ce soir, là, les stadiers, et c'est, ils sont là, ils sont au boulot, ils sont pour rien. Donc voilà. Donc cet acte-là est vraiment dommage parce que je trouvais que les supporters avaient décidé de se placer au-dessus de ça en disant voilà. Je pense que la réaction des joueurs qui déjà cherchaient un nouveau club depuis quelques temps, et le problème c'est que nous, les Lillois qui vivons dans notre ville, on sait ce qu'ils font au quotidien, d'accord, et c'est pas que du foot, et on sait aussi qu'ils cherchent d'autres clubs. Je pense que la réaction de ces joueurs-là va être de dire à leur agent, écoute, tu me trouves un autre club. Ça va pas être facile, mais pourquoi pas. Et donc, on va vraisemblablement descendre, puisque je ne vois pas quelle équipe on peut battre dans ce championnat. Puisque je pense qu'on se ferait même...
Bah t'as Amiens dans deux journées, celui-là il va être plus qu'important, notamment.
Mais moi je te dis qu'on n'est pas capable de battre Amiens. Je ne vois pas quelle équipe on peut battre, puisque là, ce soir, c'est la première fois qu'on met un but en première mi-temps, c'est la première fois que quand on met un but, on n'en prend pas un dans les trois minutes suivantes, donc il y a une amélioration quand même. Mais je ne vois pas comment on peut battre une équipe, et il faudra quand même au moins trois victoires pour s'en sortir d'ici la fin. Donc ça sent très mauvais. Très très mauvais, et voilà. Mais le LOSC, ce n'est pas ça.
Eh ben, ça sent très très mauvais. C'est la thématique de la soirée pour toi, Eric. Bonne soirée, soigne-toi bien, Eric.
Merci beaucoup.
Merci, bonne soirée, à bientôt.
Bah, des paroles sensées quand même. Hein.
Oui, bah, c'est l'équilibre.
Non, mais l'autre parlait très très bien, Vincent. Hein, mais là, on a un discours un peu plus réfléchi.
Ça sent très mauvais.
Paul La Rochelle, Paul Lafitte, c'est du top 14, c'est du rugby, Polo.
Ouais, c'est terminé, Nico. Un scénario ex-coquien avec la victoire au buzzer de la section paloise sur une pénalité de Thibaut Daubagnal et Rochelet qui étaient menés 15 à 6, sont revenus à 15 partout. Ils ont même eu une pénale touche pour aller, pourquoi pas, tutoyer les sommets. Et finalement, sur la dernière action, une faute de Jérémy Saint-Zel a permis à Thibaut Daubagnal de tenter cette pénalité et de la convertir. Donc victoire des Béarnais qui s'inscrivent un petit peu plus dans ce top 4 du championnat. Et deux autres résultats, une nouvelle défaite à domicile pour l'UBB à Bordeaux, à Chaban-Delmas. Les hommes du président Marty ont été dominés par Oyonnax 26 à 20. Quant à Toulon, démonstration de force dans le Var évidemment pour les Toulonnais qui se sont imposés 54 à 5 face à Agen. Des Toulonnais qui sont toujours dans le top 4 également de ce championnat. On rappelle ici à Pau. Donc victoire sur le fil de la section face à La Rochelle, 18 à 15.
Merci Paul, bonne soirée à toi Paul.
Bye bye, monsieur.
Sois prudent sur la route. Ouais. Julien Tellier, Brive Clermont.
Dernière minute du temps réglementaire et c'est Clermont qui vient de prendre l'avantage grâce à un essai, le premier dans cette partie signé par son troisième ligne fidjien Pesseli Yato. Un ballon transmis à une trentaine de mètres et Yato qui choisit d'y aller tout droit, il renverse un premier défenseur et puis il va en glissade aplatir ce premier essai. Brive est donc mené de 2 points, 11 à 9 par Clermont. Dernier ballon du match pour les brivistes qui sont à l'attaque là dans les 22 mètres de Clermont. Si l'arbitre siffle une pénalité en leur faveur, eh bien ils auront la balle du match. Pour l'instant c'est Clermont qui mène au-delà de la 80e ici à Brive, 11 à 9.
Merci Julien, on va revenir dans quelques instants pour la toute fin de ce match. Nous on vous attend, supporters de Rennes et de Saint-Etienne. Il y a eu un but partout ce soir entre ces deux équipes. Sarr et Subotic ont marqué. On vous attend au 32-16 avec Ali Benarbia et avec François Malardo et sur le hashtag RMC Live bien entendu. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benarbia et François Malardo, beau gosse, hein, François Malardo, bien évidemment.
Attention à toi.
Suite de la 29e journée de Ligue 1, voilà. Cet après-midi, le PSG a mis une fessée. 5-0 au FC Metz, 1 partout. Entre Dijon et Amiens, Nantes a battu 3. Oh, 1-0. Pas de but, 2 boules entre Bordeaux et Angers, 0-0. 1-1. Entre Lille et Montpellier, et pareil entre Rennes et Saint-Etienne. Ça vous fait marrer ça?
Tiens,
Rennes-Saint-Etienne justement, un but partout, premier but marqué par Subotic, l'égalisation de Sarr. Avant de rentrer dans le détail, c'est terminé entre Brive et Clermont, Julien Tellier. Il est pas là, il s'est barré du coup, Julien Tellier.
Mais c'est voilà. Clermont, victoire de Clermont.
Qui a gagné?
Clermont.
Victoire de Clermont finalement.
Brive mené et clairement a marqué un essai par Kita Kavanou.
Ben voilà, il est là, Ali Benarbia.
Exactement.
Oh, la reconversion.
Eh oui. Mais voilà. Le Tanguy.
Laurent Després sort de ce corps.
Reconversion tout trouvée pour voilà. Ali Benarbia. Un partout entre Rennes et Saint-Etienne. Donc Subotic a marqué le premier but. Égalisation des Rennais à la 87e par Sarr. Ça fait 4 matchs sans défaite pour Rennes. 8 matchs sans défaite pour l'AS Saint-Etienne quand même. Alors ils sont 11e au classement avec 36 points. Les Stéphanois, ils font pas mal de matchs nuls. Ça va mieux quand même. Il n'y a rien à dire du côté des Verts.
Ben oui, parce que tu as d'autres ingrédients, pour reprendre la métaphore de la recette et les ingrédients. Tu as Mvilla, bon, Ntep pas encore au point, mais Subotic par exemple qui marque ce soir, c'est une des recrues du mercato d'hiver. On l'a déjà dit dans l'émission, le meilleur mercato d'hiver dans la Ligue 1, c'est Saint-Etienne qui l'a fait sans doute. Maintenant, on va peut-être pouvoir ajouter certainement, et ça a payé ce soir. Je pensais quand même qu'ils allaient s'imposer parce que je croyais le Stade Rennais toujours incapable, quand il faut gravir une certaine marche pour aller prétendre faire quelque chose dans ce championnat de Ligue 1. Eh ben, ça capote. Bon, finalement, ils égalisent à la fin.
Ils sont qu'à un point de Nantes.
Oui, oui, oui. Finalement, ils égalisent à la fin du match. Malgré un Ruffier, je l'ai dit.
Oui, tu parles de Saint-Etienne, faut pas oublier aussi, après les recrues, le retour de Ruffier, qui leur fait énormément. Et qui, quand il n'était pas là, c'était pas du tout évident. Et qu'on est, t'avais pas un gardien qui commandait vraiment la défense, malgré que la doublure avait fait quelques exploits. Mais concernant, par contre, le Rennes de Sabri Labouchi, ils se sont fait souvent mener, ils sont souvent revenus. La preuve en est, c'est peut-être ce que ne n'arrivait pas à faire à Rennes avant, même s'ils ne gagnaient pas tous les matchs. Mais là, on a encore vu les ressources, parce que avec cette égalisation, cette équipe rennaise, même si elle n'arrive pas à profiter à domicile de prendre des points, elle ne perd pas un petit peu ce groupe-là pour la cinquième place. Et ça, c'est une bonne chose pour les Rennais.
C'est vrai, c'est ouf quand même, hein, de se dire que Rennes, qui est sixième, il compte 12 victoires cette saison et 11 défaites. Hein.
Ouais, c'est énorme.
Mais c'est l'équipe qui affiche le moins de matchs nuls. Hein.
Bah, oui, ouais, c'est ça. Ils ont 6 matchs nuls. Ouais. Ouais, c'est l'une des. Non, il y a quand. Ils en ont que 5, mais ils ont un match en moins aussi.
C'est énorme, 11 défaites.
Non, mais c'est fou quand même de se dire. Et ils peuvent accrocher leur encore, les mecs.
Je te rajoute, dis-moi juste le goal average si tu l'as devant.
Oui, je l'ai bien entendu.
On va rigoler.
De qui?
De Rennes.
Eh bien, il est positif, plus 1. Ah, ben voilà, ça dit des conneries.
Mais attends, c'est pas ça. 5ème plus 1, tu te rends compte?
6ème, problème, en l'occurrence.
Ouais. Ouais, ouais.
Et Nantes, ils sont 5ème, ils sont à 0. Voilà, ouais, 29 buts marqués, 29 buts marqués en 29 journées. Hein.
Non, cela dit, c'est vrai, Ali avait parlé de ces statistiques il y a deux semaines, je crois. C'est-à-dire que quand tu prenais de la 6ème jusqu'à, évidemment, la 20ème place, tu avais en France des goal average qui étaient tous négatifs. Ouais. Maintenant, quand vous regardez en Allemagne, en Angleterre, Italie et Espagne, on n'est pas loin de la même norme. 6ème, allez, autour de la 6ème place, ça commence à être des goal average négatifs. Donc, faut relativiser un peu la stat.
On va accueillir Hervé, supporter des Verts. Il a fait le 32-16 et le voilà en direct dans l'after. Salut Hervé.
Salut Hervé. Ça va, mais ça va bien.
Ça fait trois nuls de suite. Bon, écoute, vous arrêtez de perdre, mais bon, vous gagnez plus trop non plus, mais vous perdez plus. C'est toujours ça pris, quoi.
Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se souvenir à la trêve qui n'était pas si loin.
C'est pas si loin que ça. Ouais.
Le but ultime pour Saint-Etienne, c'était effectivement déjà de ne plus perdre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à défaut de tout gagner. La petite contre-performance, je la vois plus dans le match de Dijon la semaine dernière, puisqu'on évoluait à domicile. Là, un match nul face à Rennes, qui est quand même à pleine bourre en ce moment. Le but qui arrive à 5 minutes du coup tifflet final, ben on l'a fait contre Lyon, donc ben il faut savoir accepter quand on nous le fait à nous. Hein. Mm-hmm. C'est un petit peu la loi du sport. Moi, ce que je veux retenir ce soir du match, outre le bon point pris, hein, même si c'est un nul, ben on gravit les points petit à petit. Ce soir, on prend une place au classement, alors que les autres matchs nuls, notamment Marseille et Lyon, on faisait vraiment du surplace. Là, ça nous permet de prendre une place au classement. Mais ce soir, le point positif, c'est le replacement un petit peu de la charnière centrale avec Subotic et Perrin qui ont permuté. D'ailleurs, Perrin, depuis quelques matchs, était axial gauche. Avec ce qu'on lui sait, hein, c'est-à-dire des buts un petit peu pour sa figure, hein, comme on dit. Mm-hmm. Ce soir, il est repassé axial droit. On a revu un Loïc Perrin en fin de tranchant, même si sur l'action du but, c'est lui qui est au marquage. Mais bon, on va dire que le jeu appelle l'erreur, hein, donc voilà. Mais voilà, un petit peu plus de sérénité, notamment en seconde période. Et par contre, le point négatif ce soir, c'est Bamba et Amouma. Qui clairement chacun nous bouffe la feuille, quoi, parce qu'on peut
transversale de Monet Paquet aussi.
Non, voilà. Mais tu as raison.
À la limite,
sur...
Monet Paquet, bon, c'est voilà, il tente.
Non, c'est
une
transversale. Hein.
Voilà, il est pas sur son bon pied. Le duel de Bamba quand il est face à Koubek.
Ouais, il peut la remettre à Cabella aussi.
Ouais, non, mais il peut la remettre effectivement. Et donc c'est vrai qu'il la bouffe, mais. Voilà, moi je suis un éternel optimiste hein, avec les Verts, vous savez. Mais oui. Ben ouais, pour le coup, je pensais qu'on allait peut-être le voir en fin de match. On a vu Doucet pour le coup qui est rentré pour un petit peu stabiliser et qui a fait une bonne rentrée. Donc voilà, ce soir c'est un match nul. On a vu un bon match nul. Il y a des matchs nuls qui sont tristes à mourir. Ce soir on a vu un bon match entre deux équipes qui étaient plutôt plutôt en forme. Mais je vous dis, ce soir, ouais, un bon point de prix à mon avis, quoi.
C'est vrai que de tous les matchs nuls de cette soirée,
c'est peut-être l'un des moins
intéressant.
D'ailleurs, c'est marrant de parler de match nul. Comme quoi, des fois, la loi des séries, certaines stats se vérifient. Sur les neuf dernières confrontations entre les deux équipes, il y a eu 7 matchs nuls. Mm-hmm. Une victoire chacun. Non, mais c'est fou, quoi.
C'est fou.
La statistique. Après, un gros chiffre.
Non, mais les séries, c'est vrai qu'elles se suivent.
C'est bien l'action du foot, toi.
Oui, par contre, non.
Attends, qu'est-ce que tu disais tu disais quoi les séries, c'est bien
se suivent. Non. Souvent, les séries ne se ressemblent pas.
C'est bien qu'elles soient dans la continuité.
Elles se ressemblent, puisque.
C'est bien que les séries soient dans la continuité.
Je suis d'accord avec Hervé dans le sens où cette équipe de Saint-Etienne, dès qu'elle va mieux derrière, elle va moins bien devant. Et dès qu'elle commence à aller bien devant, malheureusement, elle fait des erreurs derrière.
On a du mal à trouver le bon équilibre. Alors, M. Villa nous aide beaucoup dans cet équilibre-là. Mais c'est vrai que voilà.
Non, mais je voulais dire, Hervé, j'avais pas terminé. C'est pour dire simplement que cette équipe de Saint-Etienne, elle est malade cette année à cause de ce problème-là. Malgré qu'il y a eu des très bonnes recrues, et comme l'avait dit François, le retour de Ruffier, qui est très important pour cette équipe de Saint-Etienne, dès que derrière, ils vont trouver la solution, ils vont la perdre devant, ou peut-être au milieu, et vice-versa. Et ça, je pense que Saint-Etienne aura ce problème jusqu'à la fin de saison.
De toute façon, c'est un petit peu dans cet esprit-là que je vous dis que le point ce soir arraché face à une équipe de Rennes qui est pleine bourre en ce moment, c'est plutôt pas mal, parce que encore une fois, à la trêve, on était 16e, l'urgence absolue, c'était de ne plus perdre, parce qu'on perdait les matchs, on faisait même pas des matchs nuls, on perdait tous nos matchs, on prenait des branlées, samedi après
Et vous faisiez peine, surtout, Hervé.
Et on faisait peine, voilà, il n'y avait surtout. Rien, il n'y avait aucune
Ce qui n'est pas le cas maintenant.
Voilà, alors que pour le coup, ce soir, ma foi, la deuxième mi-temps, honnêtement, voilà, on gagne la première mi-temps 1-0, allez, un peu contre le cours du jeu, parce que Ruffier, effectivement, nous sort 2-3 parades énormes. Sur la deuxième mi-temps, pour le coup, c'est Rennes qui la remporte 1-0, et un petit peu contre le cours du jeu pour eux. Donc, au final, un but partout, un petit peu de spectacle dans les tribunes, même si Rennes, c'est pas la folie, mais quand on voit ce qui se passe... ailleurs, ma foi, voilà, une bonne soirée pour les supporters rennais et les supporters des Verts, quoi.
Mmh. Et ma foi, bonne soirée à toi aussi, Hervé. Merci de nous avoir appelé, Hervé. Merci à vous, bonne soirée, à bientôt, Hervé, supporter de Nantes et de Troyes. On vous attend au 32-16 dans quelques instants. On va revenir sur la victoire au bout du bout.
Au bout du bout de
Nantes.
De Nantes,
bien entendu.
Contre Troyes.
Et bien entendu.
Le but de Salah.
Salah, tout de suite, elle me parle avec Calimera Robia et avec François Malarodo. À tout de suite, au 32.
De droite dans le
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec François Manardo et Ali Benarbi avec vous également au 32-16 et également sur le hashtag RMC Live. Bien entendu, je vous rappelle les résultats de la 29e journée de Ligue 1. Si mon ordinateur veut bien fonctionner, voilà qui est fait. Le PSG a battu Metz 5-0, un partout entre Lille et Montpellier, pareil entre Rennes et Saint-Etienne. 0-0 entre Bordeaux et Angers. Un partout entre Dijon et Amiens. Et Nantes a battu 3-1-0. Et c'est ce match-là qui nous intéresse, les gars. Un seul buteur donc dans ce match, et c'est Emiliano Sala. Ce diable de Sala, buteur à la 87e minute de jeu. Victoire très importante pour Nantes, alors qu'il monte à la 5e place avec un point d'avance sur le Stade Rennais, mais qui surtout restait sur une sale série. 5 matchs en victoire pour les Nantais. Est-ce qu'ils ont une belle tête de 5e, vous trouvez, le FC Nantes? Non, on en parlait tout à l'heure, il a la 5e place. Eh ben non, les gars, vous n'allez pas répondre à cette question. La réponse est non. La réponse d'Ali, c'est oui ou non?
Oui. Qu'est-ce qu'il fait?
En un mot, oui ou non? Nous allons écouter
Mathieu Debuchy. Les gars, il est avec nous en direct dans l'after.
Oui,
le latéral de la Saint-Etienne. Bonsoir Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir, avec plaisir.
Bonsoir Mathieu. J'allais dire bravo pour cette victoire, mais non, Saint-Etienne a fait match nul face à Rennes ce soir. Ça dit, vous êtes sur une très belle série avec la Saint-Etienne, là.
Oui, on est sur une belle série. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de défaite. Maintenant, on a fait encore un match nul. Donc, on n'avance pas beaucoup au classement. C'est ça qui est dommage. Parce qu'on est, plutôt costaud. On s'est fait il y a eu des belles phases de jeu. On aurait pu prendre les 3 points ce soir. Mais c'est encore un match nul. Je pense que le match de la semaine dernière contre Dijon à domicile, on aurait dû le gagner.
Mathieu Debuchy est en direct avec nous dans l'after. Mathieu, Ali Benarbia, une question pour toi.
Salut Mathieu. Alors, une question très courte, parce qu'on me dit que je fais des questions longues.
Bah, tu vois, tu commences déjà avec
vous arrêtez un peu. Donc, je suis content de te revoir d'une jouer. Et est-ce que tu penses que tu peux revenir au niveau où t'avais et en même temps croire peut-être à une chance à l'équipe de France. C'est bon, c'est court là.
C'est pas mal, c'est bien ça. C'est une très bonne question en plus.
Bon, déjà merci Ali. C'est vrai que j'ai eu des moments très difficiles à Arsenal. J'ai pas pu enchaîner des matchs tous les week-ends depuis, on va dire, un peu plus de 2 ans. Pour moi, c'est un plaisir immense de retrouver les plus de Ligue 1, de jouer tous les week-ends, et puis d'essayer tout simplement de donner le maximum, de retrouver mon niveau, mon meilleur niveau le plus rapidement possible. Là, ça fait 6 matchs, je crois, que j'enchaîne. Donc je suis très content et en plus on a des bons résultats, on va dire, avec Saint-Etienne. Donc pour moi c'est tout bénef. Après, ce qui est pour la question de l'équipe de France, comme j'ai dit, ça passe par des bonnes performances avec Saint-Etienne. Et puis après il y aura les choix du sélectionneur. On attendra la liste. Maintenant je ne me prends pas la tête plus que ça avec l'équipe de France. On verra si ça suit.
Mathieu Debuchy est en direct avec nous dans l'after. Saint-Etienne qui a fait match nul 1-1 face au Stade Rennais. François Malardo a une question pour toi, Mathieu.
Oui, Mathieu, puisque oui. Ali te parlait de l'équipe de France, moi je vais te parler de Saint-Etienne. Est-ce que tu... Mais je vais faire un lien entre les deux. Est-ce que tu retrouves le Jean-Louis Gasset à Saint-Etienne que tu avais vu ou découvert en équipe de France lorsqu'il était l'adjoint de Laurent Blanc? Est-ce qu'il a pris un peu plus, comment dire,
Tu fais des questions à la Benarbia, là.
Est-ce qu'il s'est bonifié?
J'aime bien.
Oui, tout à fait. J'ai retrouvé le coach comme je l'avais connu en équipe de France. Il travaille de la même façon. Et puis, il nous transmet son énergie parce que c'est quelqu'un qui adore son métier et qui nous motive sans cesse la semaine et ce qui est aussi le jour du match dans ses causeries qui te donne envie de te transcender. Donc, c'est vraiment le même homme que j'ai retrouvé.
Il est bon en causerie, ça, c'est...
Oh, il est bon en tout,
c'est certain.
Ouais, bah, visiblement, il n'est pas bon qu'en causerie, on le voit là.
Non, je vais poser une question à Mathieu.
Aucun joueur le souligne,
il est bon en causerie, mais être numéro 2 est une chose, et ça, il l'avait vu, Jean-Louis. Là, il est numéro 1. Est-ce qu'il est différent numéro 1 qu'un numéro 2?
Forcément, en étant numéro 1, on se doit de donner plus. Forcément. Après, je vous dis, il faut pas non plus changer. Il faut rester soi-même. Et je pense que le coach, il est resté lui-même. Et déjà en étant numéro 2 en sélection, il prenait beaucoup la parole et il dirigeait aussi quelques séances. Donc je pense qu'il n'a pas. Il faut pas non plus changer du tout au tout, quoi.
Mathieu Debuchy, juste une question avant de te laisser tranquille. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu veux ou de ce que tu vas faire la saison prochaine? Parce que tu as signé cet hiver. Je crois que tu as signé jusqu'à la fin de la saison, c'est ça, avec les Verts?
Ouais, c'est ça, ouais. Non, pas du tout. Je ne me suis pas projeté encore.
Parce qu'il y a Lille qui cherche un arrière-droit, Lille.
Oh ouais, t'as vu ce qui s'est passé d'ailleurs à Lille ou pas ce soir, Mathieu? Envahissement de terrain.
J'ai eu des échos un peu que c'était un peu un envahissement de terrain et des problèmes avec les joueurs, c'est ça?
Ouais, exactement. Il y a eu un envahissement de terrain, voilà, ça a dégénéré sur la fin.
C'est triste, ouais. C'est vrai que je suis, en étant lillois, ça me fait mal au cœur de voir le club dans cette situation-là. Je pense qu'il y a eu des grosses fautes de fait en début de saison et voilà, le club est dans une situation terrible. Ça n'a pas été évident jusque la fin de saison pour eux, mais j'espère qu'ils vont réussir à se maintenir quand même, parce que ça ferait vraiment mal de voir le LOSC en leader.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mathieu. Et tu sais quoi, au pire du pire, on te dit, on se retrouve sur RMC pendant la Coupe du Monde, puisque tu seras en Russie. Donc,
on se retrouve en Russie.
Ça va.
On te le souhaite, en tout cas, Mathieu. Merci, bonne soirée, Mathieu.
Ciao,
à bientôt. Salut, Mathieu. Et bon, Mathieu Debuchy. Sympa, cool, dit ça.
C'est vrai,
merci, Mathieu.
C'est vrai que j'ai oublié de le citer dans ce mercato réussi. J'ai parlé de Subotic, j'ai parlé de M. Villa.
C'est lui qui nous a appelé au 32-16.
J'ai complètement oublié,
Mathieu. Il nous a appelé au 32-16, il était vénère.
Il était pas content sur la scène française. Et puis, en plus, j'ai bien aimé parce que tout le temps, il y avait des photos de Cazeri.
Oh, le petit accueil.
C'est quoi, t'es pas content, tu iras aller faire toi-même. Écoute, moi je tiens à remercier tous les gens, voilà, qui sont BFM, qui leur travail. Je crois que la télé c'est comme ça, toi t'arrives, tu mets tes pantoufles et tout.
Ça t'as raison. Et la prochaine fois
on va te laisser animer des émissions, faire le travail et tout. Regarde, ils viennent, ils font grève, t'es envahissement de plateau.
La prochaine fois qu'on a Cazeri, des photos de Mathieu Debuchy.
Voilà. Il est débile.
Et il taquin, hein, quand même.
Ouais, hein, ouais, soir, non, hein. Mais ça fait n'importe quoi, là. On va accueillir, on allait évoquer, messieurs, on allait se lancer sur le match entre les Nantes et Troyes.
Là, tu
fais
trop long. On avait dit qu'il y a une question, maintenant tu fais
long. Non, parce que du coup, on parlait la dernière fois, ils ont nettoyé les écrans. Par contre.
Ah oui, tu vois, il y a plus d'écran griffé.
Ah oui, ça, bravo. Non, bravo. Le mien n'est pas nettoyé, en revanche.
Voilà,
ah non, tu vas pas commencer.
On peut pas tout faire, non. Non, mais commence pas à faire ça. Exactement. Bon. Messieurs, Nantes a battu 3-1-0. Nantes est 5e ce soir, on le disait, avec un point d'avance sur le Stade Rennais. On va accueillir Mickaël, supporter des Canaries, qui nous a appelé au 32-16. Salut Mickaël.
Ah, il est pas tout seul, Mickaël.
Il a eu plein de copines, Mickaël.
Mickaël.
Allô.
Ouais, Mickaël, mais t'es où là?
Ah, il est dans son van. Il a ses 10 enfants avec lui.
On est pas dans les toilettes. Les jeunes de mon club, en fait.
C'est quoi ton club, voilà. Mickaël?
Les gars. Mon club, c'est Milsillac.
Milsillac?
Milsillac.
Il y a eu Miss France, Milsillac.
Ouais, Milsillac, c'est ça?
Allô?
Ouais, bah alors, tu nous entends ou pas, Mickaël, là-haut?
Je vous entends.
Bon, alors, c'était comment ce match, là, cette victoire, là?
Bah, c'était pas terrible.
Ah, bah ouais, super, on entend ça.
En même temps, ils ont géré, ils ont marqué au moment où il fallait. Après, ils ne pouvaient pas se faire rejoindre, donc c'était juste qu'il fallait.
Bah, dis-nous que t'as pas vu le match, allez, vas-y.
Bah, écoute les enfants, là.
Tu me diras, hé.
Alors?
Ah ouais, c'est non, pas mal, t'es arrivé là.
Il vaut mieux avoir les gamins qui gueulent dans le bus plutôt que le match, parce que c'était une purge, il a raison.
Complètement.
Ah, c'était une purge, c'était une grosse purge. Après, si on va en Coupe d'Europe avec ça, ça peut te faire quand même.
T'y crois, toi, la Coupe d'Europe ou pas, Mickaël?
Si t'es 5e à 9 matchs de la fin, tu peux que y croire quand même.
Ouais, c'est quand même pas. Après, tu me diras, pour la 5e place, il n'y a personne qui
veut. Exactement. Qui tu veux qui prenne cette 5e place?
Bah, je sais pas. Bon, en tout cas, Mickaël, merci Salah une nouvelle fois.
Hein. Ouais, il est bien fort. Je me rappelle, Standardi, je l'avais eu au mois d'août, il m'avait dit le jour où Salah il met 15 buts dans une saison. J'arrête d'être standardiste à l'MT, vous pouvez le virer maintenant.
Non, mais il est à combien de buts,
c'est qui,
Salah?
C'est qui d'ailleurs sur le standard? C'est Max peut-être, non? Il est là-haut, je sais pas.
Non, mais il est à combien de buts, Salah? Il est pas à 15, là?
Il est à 13.
Ah oui, ben il a raison.
Eh ben tu sais quoi? Vivement qu'il émette les deux prochains buts, parce que Max, j'en peux plus de sa gueule. Merci en tout cas, Mickaël.
Merci.
Voilà, soyez prudents sur la route, hein, quand même.
Ouais, offre des coca aux petits jeunes.
C'est sympa, putain, c'est bon. Eh.
C'est génial, si ça fout.
Gadi, oui.
Offre des coca aux enfants, là, un petit peu.
Non, mais c'est sympa, non, tout ça, là.
J'adore.
Non, du coca,
c'est. Par contre, c'est vrai que. Non, mais il a raison, Mickaël. Big up quand même à Salah, parce que c'est un mec qui s'est fait tailler. C'est le fameux chouchou.
Ah, c'est lui.
Chouchou pas bon dont parle souvent Daniel Riolo. S'il y a bien un mec qui s'est fait tailler ces dernières saisons en Ligue 1, et notamment du côté de Nantes, c'est lui, ouais. C'est lui. Il fait une grosse saison quand même.
Ben, de toute façon, il est sauf souvent. J'aimerais bien savoir combien de points il a pu faire gagner à son équipe.
Bah écoute, la prochaine fois, tu bosseras un peu tes trucs et tu viendras et tu regarderas avant.
Déjà nettoyer l'écran. Bon,
cela dit, il fait peut-être une des meilleures saisons de sa carrière, mais c'est pas un foudre de guerre.
Non,
quoi.
Ça, c'est clair. Il est important.
Mais il est important. Il fait. Alors, il fait bien le boulot et le système lui convient bien.
Toutes compètes confondues. Voilà, il en a 12 buts en Ligue 1. Toutes compètes confondues, il en a 14 buts. La saison dernière, il était à 15, déjà, toutes compètes confondues, Emiliano Salah. La meilleure saison de sa carrière, il en a deux d'ailleurs, c'est avec Orléans et Niort, il avait claqué 19 buts.
Oui, un autre niveau.
Un autre niveau. Ligue 2, voire
national. Mais là, en Ligue 1, il a 12 buts, c'est ça?
Il a 12 buts en Ligue 1, oui. C'est pas mal quand même. Hein.
C'est honnête.
Pour une équipe qui a claqué 29 buts, hein, je le rappelle quand même, depuis le début de saison.
Ah, oui. Donc, peut-être que le Stadnerdist, il va peut-être gagner, parce que c'est pas sûr qu'il mette 3 buts d'ici la fin de saison.
Eh ben, va savoir.
En tout cas, c'est pas mal ce qu'il fait sur le but, mine de rien, c'est un truc à retenir, c'est appel contre appel, ça c'est bien.
Face à son ami Viscarondo qui était parti de Nantes,
était
sûr de marquer.
Et Viscarondo, à mon avis, lui, il n'avait pas une clause dans le contrat à 3 comme quoi il ne pouvait pas jouer contre son ancien club. Il est tellement mauvais que tu veux le faire jouer contre n'importe qui, de toute façon, il sera mauvais.
Parce que son nom, il a du Viscarondo, ça c'est sûr. Mais non, attends, Ali, ça n'a pas servi.
Oui, bon, merci.
Ça n'a pas servi.
Messieurs, un petit mot sur l'un des matchs les plus tristes de cette soirée également, c'est Bordeaux-Angers. Voilà, il y a eu 0-0 entre ces deux-là. Et tu le disais tout à l'heure, François, tu le disais, je crois d'ailleurs, dans tes 3 points, tu parlais de Bordeaux qui était un peu tristouné en ce moment. Ça fait 4 matchs en victoire pour Bordeaux quand même.
Oui, il marque le pas. Mais je parlais de la recette et des ingrédients, je vais pas refaire un de mes 3 points parce que finalement on s'aperçoit que ces joueurs bordelais, j'ai presque envie de dire que ils se suivent et ils se ressemblent dans le sens où il y a du potentiel, il y a certaines qualités, mais que ça s'exprime pas franchement collectivement et en tout cas avec une équipe angevine qui a trouvé la recette, oui, pour bloquer
des points
très très physiques.
Ah, ça fait un nul et deux victoires.
Voilà, ce Bordeaux, on pourrait appeler, j'ai l'impression les supporters chaque semaine, ils diraient peu ou prou la même chose. c'est pas emballant, on reste sur notre faim, ça peut mieux faire, mais ça ne le fait pas. Et je pense que Poyet, il est forcément en partie responsable, mais il est aussi un peu impuissant par rapport à ce que produisent ses joueurs, quoi. Il a pas fait de bouleversement. Il y avait quelques aménagements. Maintenant, finalement, il a remis Bice. En défense centrale, quelques aménagements, mais c'est pas extra.
Je crois qu'il lui-même est perdu puisqu'il n'arrête pas de changer son équipe. Et ce qui est assez bizarre, qu'il y a ni Coupe d'Europe, ni Coupe de France, ni Coupe de la Ligue, et il fait tourner et il change tout le temps son équipe. Alors, est-ce qu'il n'a pas trouvé? Est-ce qu'il cherche encore?
Sûrement, oui.
Et je pense que le problème vient de là parce que on me fatigue avec oui, il faut faire tourner l'effectif, tout ça. Mais quand tu as ton équipe, quand tu as ton 11 plus ou moins, que tu changes un ou deux joueurs, ça peut arriver, une suspension, un blessé. Mais quand je vois 4-5 titulaires changer de match à match, comment tu veux que les joueurs s'y retrouvent, aussi bien les titulaires que les remplaçants, dans le sens où la fluidité ne se fait pas, surtout quand tu changes à chaque match? Alors s'il fait une pression pour dire, comme ça, personne ne saura qui joue ou qui joue pas, ben, je peux te dire, c'est pas comme ça qu'on prépare des rencontres et qu'on n'ait pas les fluidités, et automatiquement on n'a pas des résultats qui se suivent.
Je vous rappelle les résultats de ce soir, d'aujourd'hui. Le PSG qui a battu Metz 5-0. On y revient d'ailleurs dans quelques instants. On vous attend, supporters du PSG et de Metz, au 32-16. Un partout entre Dijon et Amiens. Nantes a battu 3-1-0. 0-0 donc entre Bordeaux et Angers. Un partout entre Rennes et Saint-Etienne. Pareil entre Lille et Montpellier. On rappelle qu'à l'issue du match entre Lille et Montpellier, il y a eu un envahissement de terrain de la part des supporters. Voilà, qui s'en sont, pour certains, pris à certains joueurs.
C'est ultra du LOSC.
Voilà, exactement. Nous, on vous attend, supporters du PSG et de Metz, au 32-16. On va revenir sur le succès 5-0 des Parisiens aujourd'hui, qui ont fait beaucoup tourner face à Metz. Victoire au lendemain d'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. A tout de suite au 32-16 avec François Manardeau et Ali Benarbia.
RMC, le super football show, l'after foot.